au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Compositeur, orchestrateur, arrangeur et pianiste, notre invité se consacre à la musique depuis plusieurs années. Il a écrit des partitions originales pour des spectacles, le théâtre, le cinéma, des films documentaires et séries télévisées. Il vient de produire un album qui rend hommage à la célèbre joueuse de pipa, Liu Fang, avec le tout premier concerto pour pipa du monde occidental. Et on a le privilège aujourd'hui de l'accueillir avec nous. Christian Thomas, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dubois. J'aimerais vous rectifier un truc.
Oui.
Ce n'est pas le premier concerto du monde occidental pour pipa. Il y en a eu d'autres au Canada. Je dois dire qu'ils ne sont pas forcément connus dans le sens qu'ils ont été diffusés en concert et tout ça, mais j'ai eu la chance d'avoir l'enregistrement avec Liu Fang de faire ce concerto pour pipa et orchestre, pour orchestre complet et non pas seulement pour orchestre à cordes et pipa. Donc,
mais oui,
je fais une petite nuance pour remettre les choses...
Mais c'est un des rares, quand même.
Oui, tout à fait.
C'est peut-être l'influence de notre voisin du Sud qui exprime toujours que c'est le plus gros, le plus grand, le meilleur. Vous voyez, ça a de l'influence même sur nous.
On est contaminés maintenant.
Mais cela dit, ça reste un instrument à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le pipa. C'est un instrument qui a une consonance, j'allais dire une plasticité au plan de l'écoute. C'est tellement beau.
C'est absolument beau, c'est vrai. C'est un instrument qui est fait pour... Il y a quelque chose d'un peu très, très mythique dans le son, très, très inspirant. C'est parfois aérien, c'est parfois très versatile, mais en français, on dirait polyvalent,
oui.
D'une façon... fluide. Il y a une fluidité dans le son de l'instrument et quand elle pince les cordes, parfois, on atteint des quarts de ton et ça revient sur le ton. C'est très, très beau, cette façon. C'est un peu... On pourrait l'apparenter aux luths ou aux ouds pour comparer le même type d'instrument. C'est un instrument chambriste, un instrument intimiste.
Oui.
Et c'est... C'est un instrument qu'il faut amplifier lorsqu'on joue avec l'orchestre. Donc, il y avait tout ça aussi dans les détails de
cet instrument. Et quand on entend cet instrument, tout de suite, on reconnaît le son oriental.
Oui.
Un peu l'imaginaire se met à l'œuvre.
Oui.
Parce qu'on s'imagine dans ce monde un peu magique et mystérieux.
Oui. Oh, c'est un instrument qui crée le mystère et le charme, qui se rapproche aussi. C'est que lorsqu'on écrit pour le pipa, on écrit pour des... donc, il y a des gammes spéciales, des gammes pentatoniques, si on veut, des modes pentatoniques. Et donc,
oui.
On tombe dans un univers qui est un petit peu différent du nôtre musicalement.
Diriez-vous que c'est un instrument pour lequel c'est difficile d'écrire?
Oui, ça comporte certaines difficultés. Il y a des doigtés qui sont moins évidents que d'autres.
Mm-hmm.
Il faut... en travaillant... C'est-à-dire que quand je prenais des risques au niveau écriture, je les soumettais à Liu Fang à un moment donné, puis je lui disais, est-ce que c'est possible de faire tel passage de cette façon-là? Oui, je peux le faire, celui-ci, mais je ne peux pas le faire à la vitesse que tu voudrais l'avoir, par exemple. Là. Ah, OK. Mais tel autre, par contre, ça serait plus facile si on était un octave au-dessus.
Mm-hmm.
Ou il y a des contraintes qu'on rencontre dans l'écriture, parfois, qui ne sont pas des contraintes, qui sont... on rencontre des possibilités où... ça serait plus facile d'utiliser telle doigté pour faire telle chose. C'est la même chose aussi à d'autres instruments.
Ça répond quand même à des règles harmoniques qui sont semblables.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
On dit de votre œuvre qu'elle est audacieuse, elle est à tout le moins envoûtante, et que c'est la célébration de cette rencontre exceptionnelle entre les traditions orientales et occidentales. On va découvrir cette œuvre, on va commencer à la découvrir. Je vous propose tout de suite d'entendre le premier mouvement de ce concerto pour pipa et orchestre, surnommé Dragon, c'est exact?
Tout à fait, Dragon, parce qu'on était en 2023, quand j'ai commencé à écrire le concerto, dans l'année du dragon. Et 2025, nous passons dans l'année du serpent maintenant. Et vous savez qu'on baptise en Chine le serpent le petit dragon.
Alors, on va entendre Liu Fang, Pipa, et accompagné de l'orchestre philharmonique. C'est la direction de Francis Choignard. Et je précise que cet orchestre, j'ai bien dit non pas philharmonique, mais philharmonique.
Exactement.
Parce qu'il se consacre exclusivement ou presque à la musique de film. Alors, premier mouvement, vous avez donné un titre à ce mouvement, La danse du bébé dragon. C'est exact?
Oui, exact.
Alors, on écoute. Thank you. On vient d'entendre le premier mouvement de ce concerto pour pipa et orchestre de Christian Thomas, qui est avec nous. Si on disait quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on parlait de la danse du bébé dragon, vous nous avez expliqué précédemment que, bon, il y avait l'année du dragon, là, il va y avoir l'année du serpent, mais on peut catégoriser ce premier mouvement comme quelque chose d'assez magique, comme on le disait d'une certaine façon. C'est le début d'une histoire. Là, on parle du bébé dragon.
Oui. C'est, en fait, le dragon, pour moi, c'était une allégorie. Je voulais partir avec l'histoire d'un dragon, mais ça aurait pu être toute autre forme vivante. Mais j'aimais beaucoup la mythologie qui se dégageait du dragon en définitive. Alors, j'ai décidé de construire tout mon tableau à partir de la naissance de ce bébé dragon jusqu'à sa maturité où il deviendra empereur.
Et ce que vous vouliez illustrer, c'est un peu, comme c'est le jeune dragon, l'inconscience, en tout cas la non-conscience plutôt que l'inconscience, la non-conscience de son éventuelle puissance à ce dragon. Parce qu'il est tout petit encore. Alors, il y a des sons mystérieux que nous avons pas entendu.
C'est un peu la découverte de la vie, en fait. Oui. La découverte d'essayer de voir le monde avec des yeux d'enfant, de découvrir que cet univers qui recèle autant de beauté est aussi un univers infiniment fragile. On vit ces moments-là, on croit aussi que cet univers est fragile, qu'il est vulnérable, et c'est à nous d'en prendre soin, c'est à nous de créer de la beauté aussi.
Et dans ce sens-là, il est très actuel, le concerto. Quand on regarde l'état de la planète, l'état du monde, les tensions que qui se vivent actuellement un peu partout sur la planète.
Oui.
On peut se sentir menacé par un éventuel dragon.
c'est toujours, en fait, dans l'univers occidental, pour nous, le dragon est une bête à abattre. Mais dans l'univers chinois, dans l'histoire qui remonte à la période de à peu près 1200 avant Jésus-Christ,
oui.
Donc de Confucius, il y avait aussi des dragons. Le dragon était un animal qui était prié. Là, c'est curieux parce qu'il était prié, on le priait contre les inondations,
oui.
et contre les sécheresses. C'était une forme d'inspiration que les Chinois avaient lorsqu'ils parlaient du dragon. Ça fait partie de leur légende, de leur contexte historique.
On va sortir un petit moment du concerto. On va aller à une autre œuvre. Auquel vous avez collaboré en composant la musique, c'est la messe solennelle, La Veuve et la Lune. Ça, c'est inspiré de l'écriture de Michel Tremblay, n'est-ce pas?
Oui.
Et on va entendre la voix de la merveilleuse soprano Lynn Fortin, les voix et aussi d'autres personnes comme Vincent Bélanger, Noémie Raymond, Friset, Dominique Beauséjour-Rostigui.
Ce sont les violoncellistes.
Les violoncellistes.
Les voix du violoncelle.
Oui, Thomas Béard.
Thomas Bird.
Oui. Thomas Bird. Alors, juste nous mettre le contexte de cette pièce.
Le contexte, en fait, quand j'ai créé l'opéra La Messe solennelle pour une pleine lune d'été, j'ai eu la merveilleuse chance de travailler avec Michel Tremblay, qui m'a permis de travailler sur ce texte et d'en faire l'adaptation et le livret. J'ai commencé ce projet-là, ça fait déjà 6 ans passé. Ça m'a pris 5 ans et demi, 6 ans, à écrire la messe solennelle et d'en faire une œuvre, d'en faire un opéra. Et ça a été créé à l'Opéra de Québec en 2023, juillet 2023. Et avec 11 interprètes, moitié féminin, moitié masculin. Et
parce qu'il faut dire que vous êtes très associé à la scène. On pourra y revenir ultérieurement. On va d'abord entendre cet extrait, la messe solennelle.
Parfait. Merci.
Alors oui, rapidement, on va enchaîner avec une pièce d'Édith Piaf, mais on va revenir ultérieurement, comme je le disais, à ce passage très, très présent auprès de l'industrie du spectacle, c'est-à-dire la mise en scène, l'opéra, le théâtre, etc. Mais pour connaître un peu l'inspiration musicale de Christian Thomas, il faut reculer dans l'enfance. Vous venez d'un petit village, Saint-Zacharie, c'est ça?
Saint-Zacharie,
ça, oui. C'est situé où?
Écoutez, c'est dans la Beauce. C'est anciennement le comté de Dorchester. Saint-Zacharie, il devait y avoir quand même à l'époque à peu près 3-4 000 âmes qui vivaient à Saint-Zacharie. C'était tout près de la frontière américaine.
Petit village paisible.
Paisible, vallonneux.
Les seuls sons musicaux qu'on entend, c'est le chant des oiseaux, j'imagine, le bruissement du vent.
Ça, on peut dire que c'est très pastoral, en effet.
Écoutez, on va écouter Édith Piaf nous interpréter l'hymne à l'amour, puis vous allez m'expliquer pourquoi ce choix musical au retour.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Le matin, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins. Mon corps, très bien là sous tes mains. tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
D'entendre cette composition de Charles Dumont et Michel Vauquer interprétée par Édith Piaf et Malamour, il y a une raison particulière, Christian Thomas, pour nous avoir proposé cette pièce.
En fait, c'est un vieux souvenir auditif. Moi, finalement, on se demande pourquoi parfois, on se souvient de choses aussi lointaines, mais c'est un souvenir très lointain, mais j'avais à peu près 4 ans. Et puis, on était allés, ma sœur et moi, accompagnés par mes grands-parents dans leur vieille voiture, rendre une visite à une sœur de ma grand-mère, Léontine. Et puis, au cours de la journée, on est revenu le soir dans cette voiture. Ma sœur et moi, le soleil se couchait et on revenait à travers les vallons sur les routes de la Beauce. Et soudainement, dans l'auto, quasi somnolent, il y avait un beau silence qui régnait et tout, mais on entendait la voix d'Édith Piaf à la radio.
Et imaginez ceux qui sont à l'écoute en ce moment quand il nous raconte ça. Là. Revenez en arrière, il est dans une vieille bagnole, un Plymouth 1950, avec une petite radio, là, avec un son qui peut peut-être parfois être plein de parasites,
oui.
Mais il entend une voix particulièrement belle.
C'est curieux parce qu'à chaque fois qu'on montait les côtes, par exemple en voiture, ah! On attrapait vraiment le signal. Mieux, on entendait Piaf qui chantait l'hymne à l'amour. Et ça redescendait. On retombait en bas de la côte. Les crépitements qui repartaient, tout ça. Alors moi, je dis à mon grand-père, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est qui chante et tout? Et il m'a dit là-dessus, mais ça, c'est la voix d'une petite dame qui est un peu comme un espèce de pape, un espèce de personnage que tout le monde adore. C'est Édith Piaf.
Et plus populaire que le pape.
Plus populaire que le pape, c'est ça. Alors, on écoutait cette voix-là qui crépitait, qui revenait. Ça a été ma première version de l'hymne à l'amour à travers une vieille radio de voiture où on rentrait exténué à la maison après une fantastique journée à la campagne.
Et c'est drôlement inspirant quand même.
Hein? Oui. C'est curieux que je me rappelle d'un détail aussi lointain, aussi lointain soit-il. Des fois, notre mémoire auditive nous ramène des faits comme ça. À travers le temps.
Alors, quelque chose qui est très inspirant aussi, c'est la prochaine pièce. Encore une fois, Liu Fang, qui est au pipa,
Élise Daou à la flûte. Il y a un autre instrument qu'on dit le gouzang, c'est exact?
Oui, le gouzang.
Qu'est-ce que c'est que le gouzang?
En fait, c'est un instrument qui est plus posé d'une manière horizontale avec des cordes que l'on frappe avec des petits marteaux.
Et la pièce a pour titre?
Mei Hua.
Mei Hua. Alors, on écoute.
Thank you.
très joli aussi, toujours cet univers oriental. On va revenir quand même dans votre enfance parce que je trouve ça fantastique, l'éveil à la musique. Vous nous avez dit que vous veniez d'un petit village paisible. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de concerts qui se passent à Saint-Zachary, mais pourtant, vous avez un piano.
Oui.
Un piano qui prend beaucoup de place dans la maison,
oui.
Qui est un héritage du paternel, du grand-père paternel,
oui.
C'est exact?
Oui, de mon grand-père paternel. Et c'était un ancien piano Heinzmann avec un pédalier sur lequel on pouvait, en insérant des rouleaux, jouer et entendre des musiques. Alors, ça a été mon premier contact avec l'instrument. On jouait, on s'amusait sur cet instrument... Et ça nous amusait de voir les notes jouer toutes seules et baisser tout ça. Mais après un temps, je me suis un peu lassé de ça et j'ai commencé à toucher l'instrument. Ça a été ma connexion avec la musique aussi, d'entendre résonner un instrument acoustique. Ma sœur et moi, on a pris plaisir finalement à explorer le piano, mais de notre propre gré.
Mais vous avez exploré plus que le piano.
Oui. Ça, c'est chez mon grand-père maternel, dans le salon, il y avait un instrument on le trouvait inquiétant, en même temps particulier, parce que c'était un harmonium avec les boutons qu'on tirait, qu'on poussait, l'espèce de soufflet qu'on activait avec les pieds. Et c'était aussi un son assez curieux. Et nouveau pour nous. Mais il faut dire que dans la famille, du côté de ma mère aussi, on avait beaucoup de réceptions, tu sais, à Noël et tout ça. On fêtait dans la maison
oui.
Paternelle, c'est-à-dire du grand-père Morin. On fêtait Noël et il y avait quand même des chants. Il y avait
ma grand-mère qui... religieux.
Oui, mais il y avait des chants aussi durant le réveillon et tout
ah,
ça.
Ah, ben oui, avec le violonneux.
Avec le violonneux, mon grand-père qui était violonneux.
Oui.
Et ma grand-mère qui joue aussi de l'harmonica. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'ambiance. Donc, c'était déjà un très beau premier contact avec la musique.
Et le premier contact sérieux,
oui.
C'est les premiers cours.
Les premiers cours.
Et ça survient au moment où vous êtes en première, deuxième année?
En deuxième année, exactement, à Saint-Prosper, parce qu'on avait déménagé de Saint-Zachary à Saint-Prosper, qui était aussi dans la Beauce, un village qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres de l'autre.
Alors, en vous inscrivant à ces cours, peut-être que vos parents ou votre environnement, votre sœur, le grand-papa paternel ou le grand-papa maternel, voyaient déjà en vous un Vladimir Horowitz. On va l'écouter, ce grand pianiste, nous interpréter l'impromptu en sol bémol majeur, opus 90, numéro 3 de Franz Schubert. Très beau choix musical proposé par notre invité Christian Thomas. Cette pièce de Schubert, c'est une pièce vraiment majeure. Et quand elle est interprétée par Horowitz, ben là,
c'est tellement magnifique, cette pièce. Aussi, c'est la particularité chez Schubert, c'est qu'il a écrit beaucoup de lieder pour la voix, donc voix et piano. Mais on a l'impression que dans le chant d'Horowitz, avec la façon dont il touche le piano... et la façon dont l'œuvre est écrite, on a l'impression que c'est une voix qui chante. Il y a beaucoup, c'est un grand, grand mélodiste, Schubert. Il y a toujours des particularités harmoniques aussi captivantes. Et évidemment, joué par Horowitz, c'est de toute beauté.
On dit d'Horowitz qu'il était un personnage assez austère. Il ne parlait pas beaucoup, même avec les maestros avec qui il devait jouer. Sa concentration était vraiment axée sur l'instrument sur lequel il allait jouer. Un homme de peu de paroles,
oui.
Mais paraît-il que lorsqu'il parlait, ça avait du poids.
Il parlait quand il y avait du poids, lorsqu'il parlait. Oui. Il y avait aussi beaucoup de poids et de profondeur,
exact,
dans son interprétation du piano, cette façon d'aborder l'instrument et de parler à travers l'instrument.
Tout à fait. Parce que... Voici le moment venu d'entendre le deuxième mouvement de votre concerto pour pipa. Ce deuxième mouvement... que vous avez... comment la noteriez-vous? Parce qu'on avait tantôt le jeune dragon. Là, c'est un peu l'éveil de la conscience de votre dragon qu'on va entendre.
Oui,
c'est que vous avez voulu illustrer, à tout le moins.
On pourrait dire que c'est un peu la fin de son adolescence et puis il est en train de prendre conscience de l'univers dans lequel il gravite. Et puis... évidemment, la réalisation que tout n'est pas nécessairement bien et bon dans la vie, mais qu'il y a aussi des passages obscurs. Et ces passages obscurs, qu'on le veuille ou non, valent la peine qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse.
Pourrait-on dire qu'il commence à comprendre son rôle dans le monde dans lequel il évoluera, sa connexion aussi avec les êtres qui vont l'entourer,
oui,
et probablement aussi sa grande... ben encore une fois, on peut parler de connexion, sa grande connexion avec la terre, avec le sol.
Oui.
Il est vraiment partie prenante de tout ça.
Avec l'univers vivant.
Avec l'univers vivant, voilà, c'est bien dit.
L'univers vivant, il y aura des choix à faire parce que il y a des chemins à emprunter pour que cet univers vivant qui nous captive et qui nous rend très heureux. Et par d'autres moments qui nous bouleversent, il va devoir se commettre. Et il comprend de plus en plus son rôle en tant que responsable.
Alors voici l'illustration qu'en a faite musicalement Christian Thomas. Ça promet. On n'a pas encore entendu toute l'œuvre, mais on va avoir l'occasion de l'entendre parce que vous allez nous revenir la semaine prochaine. On n'a pas encore terminé, mais on poursuivra la semaine prochaine avec les deux derniers mouvements qui sont aussi de très, très grande qualité et très... C'est très surprenant comme musique et à la fois... C'est un peu comme... peut-être la comparaison est boiteuse, mais la première fois qu'on écoute, par exemple, le concerto pour clarinette de Mozart, hein, qui est une œuvre majeure, une œuvre de fin de vie, d'ailleurs, c'est très différent du Mozart qu'on a entendu préalablement, de ses concertos pour piano ou autre. Et là, on découvre une clarinette qui... instrument secondaire, hein, qui n'est pas très utilisé. Et là, Mozart rend à la clarinette toute sa grande valeur, sa sonorité extraordinaire. Et c'est un concerto qui nous touche. Vous faites un peu la même chose avec le pipa, un instrument qu'on considère comme oriental, qu'on n'entend pas nécessairement. Et puis là, voilà que vous écrivez pour cet instrument un concerto et waouh!
C'est drôle parce que, en même temps, vous savez que Mozart adorait la clarinette. Il vénérait cet instrument-là, contrairement à la flûte, par exemple.
Oui.
C'est vrai qu'il a écrit des choses extraordinaires à la clarinette. Il a un peu déifié cet instrument-là. Il l'a mis sur un piédestal. Mais moi, j'ai eu toute une rencontre avec Liu Fang parce que des années antérieures, pendant 4 ans auparavant, j'allais l'entendre à la salle Bourgie en concert, tous ces concerts du Nouvel An à la salle Bourgie. C'est de cette manière que j'ai découvert cet artiste. Et avec des amis conjoints, on nous rassemblait après ces concerts pour faire une célébration à la maison de ses amis chinois. Et c'est lors de ces occasions qu'on a pu se rencontrer et que j'ai vraiment avoué mon coup de foudre pour l'instrument qu'elle jouait. Et tout de suite, j'ai décidé d'écrire un concerto. À l'époque, c'était avec violoncelle et pipa.
Quelle
et
bonne
finalement,
idée.
J'ai tranché pour écrire seulement pour pipa et orchestre.
Alors, on va poursuivre sur ce récit fascinant.
Oui.
Vous allez nous revenir la semaine prochaine, c'est certain.
Avec un immense plaisir,
M. Le Durand. Temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de notre bonne amie Lysandre Duplay. Et à la réalisation et l'animation, celui qui vous parle, Armand Dubois. Notre invité, Christian Thomas, on va se quitter sur une belle pièce d'Ennio Morricone.
L'extraordinaire Ennio Morricone.
Oui, et c'est tiré du film The Mission. C'est le fameux passage avec le hautbois de Gabriel.
Magnifique.